Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 20h30. Ce mardi, la loi santé a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale après des débats houleux et plusieurs milliers d'amendements. Elle propose notamment la généralisation des prescriptions électroniques, la création d'un espace numérique de santé, une sorte de carnet de santé dématérialisé qui sera disponible dès 2022 pour les patients, ainsi que le développement des télésoins. On le constate, le secteur de la santé est donc lui aussi profondément transformé par le numérique et c'est le sujet de notre émission ce soir. Nous évoquerons les avantages et les limites de l'automédication sur des sites comme Doctissimo, la prise en ligne des rendez-vous des médecins avec Doctolib et Mon Docteur qui viennent d'ailleurs de fusionner, Mon Docteur ayant été racheté par Doctolib, la question des pharmacies en ligne, les applications de santé, notamment les montres connectées, le problème de la sécurité, sécurisation de leurs données. On évoquera également ces montres, les applications connectées qui vous indiquent votre tension et vous aident à évaluer votre diabète par exemple. Et puis dans une optique plus prospective, on terminera cette émission en évoquant l'intelligence artificielle ou encore les robots chirurgiens. Pour décrypter l'ensemble de ces sujets, nous sommes ce soir avec le docteur Damien Mascret, médecin, journaliste au Figaro, habitué de cette émission. Bonsoir Damien.
Bonsoir.
Ainsi que Victoire Nsondé, journaliste santé et consommation. Vous êtes chroniqueuse à France 5. Vous aviez d'ailleurs été en charge longtemps auparavant de la rubrique santé pour l'association 60 millions de consommateurs. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Toujours au sommaire de cette émission, dans un instant l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias. Et puis en seconde partie d'émission, à 20h, votre invité innovation, Zoé Sfez.
C'est Pierre Mounier, il publie un livre qui s'appelle Les humanités numériques, qui comme son nom indique tente de définir ce que c'est que les humanités numériques. C'est un terme qui apparaît en 2008, mais qui recouvre une réalité et des interrogations sur les liens entre la recherche et l'informatique, qui sont beaucoup plus anciennes. Et c'est un livre prospectif. Que peuvent être les humanités numériques?
20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons des Français stars de l'intelligence artificielle, alors que c'est un Français, justement, Yann Lécune, qui a reçu le prestigieux prix Turing ce mercredi pour son travail sur l'intelligence artificielle avec deux autres chercheurs. On évoquera tout ça avec Emmanuel Paquet de L'Express et Gilles Fontaine de Challenge. Voilà pour le sommaire de ce magazine Soft Power. Ce soir, cette émission réalisée par Véronique Villa avec en régie Élise Leu. Elle a été préparée par David Lavaux. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, au mot-clé Soft Power et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. L'actualité, comme chaque semaine, l'actualité de la politique culturelle, des industries créatives et des médias au début de cette émission. Trois sujets ce soir pour commencer Soft Power avec Zoé Sfez. D'abord, la tribune de Mark Zuckerberg, publiée en exclusivité dans le Washington Post et pour la France dans le JDD ce dimanche.
Oui, alors c'est intéressant. C'est en exclusivité dans quatre grands quotidiens, enfin pas quotidiens d'ailleurs, journaux de la presse traditionnelle en Allemagne, aux États-Unis, en France et en Irlande, c'est intéressant quand même ces quatre pays. Alors, on est avec Mark Zuckerberg sur un chef d'entreprise qui a quasiment toujours communiqué sur sa page Facebook d'abord et avant tout. Là, il publie une tribune donc dans quatre, disons, journaux traditionnels. Il fait un espèce de pas vers le pouvoir traditionnel. Il y a un médaillon avec sa photo où il pose en costume et en cravate. On est d'accord qu'on l'a pas beaucoup vu en costume et en cravate.
Lors des auditions devant le Congrès, il était déjà en cravate.
Ouais, voilà, mais c'est quasiment
une des rares fois. Il avait quitté le hoodie avec...
Exactement, mais là c'est intéressant parce que c'est presque une audition. Et il faut rappeler le contexte, Facebook fait l'objet depuis plus d'un an de critiques assez violentes. Il y a eu évidemment le scandale de Facebook Analytica et le rôle qu'il a joué dans l'élection de Donald Trump. Il y a eu le scandale des piratages de comptes, nombreux. Et il y a eu cette polémique au moment de l'attentat de Christchurch avec cette vidéo en direct que l'intelligence artificielle de Facebook n'a pas su identifier comme un acte de terrorisme et qui a permis finalement la reprise de cette vidéo. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Et puis quand même, a ajouté vendredi, Alex Stamos, l'ancien directeur de la sécurité sécurité de Facebook, qui expliquait lors d'une conférence que Facebook possédait plus de données sur ses usagers que quiconque au monde. Dans ce contexte, Mark Zuckerberg donc publie cette tribune. Cette tribune où il essaye d'aborder quatre thématiques qui sont en fait celles sur lesquelles il a été le plus attaqué. La question des contenus violents et haineux, l'intégrité des élections, la protection de la vie privée et la portabilité des données. Et il commence par une espèce en fait d'acte, il prend la mesure du rôle qu'il joue. Il commence par cette phrase: les décideurs publics me disent souvent que nous avons trop de pouvoir en matière d'expression et franchement, je suis d'accord, j'en viens à croire que nous ne devrions pas prendre toutes ces décisions sur ces quatre sujets tout seul. Donc c'est un paradoxe. Il arrive, il essaye de faire preuve de responsabilité, il explique qu'il prône la régulation d'Internet. Finalement, sur les quatre propositions, on est sur des propositions relativement simple et en même temps très peu réaliste sur la vie privée, incroyable mais vrai. Quand on imagine ce qu'on en disait il y a quelques années, Mark Zuckerberg appelle les États-Unis et quasiment tous les pays à s'inspirer du règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur en Europe depuis tout juste un an. Indique que c'est une garantie aussi pour lui dans un groupe qui maîtrise finalement peut-être trop de données.
Qu'ils avaient critiqué des débats au Parlement européen.
C'est un vrai revirement. La vraie question, c'est est-il de bonne foi ou pas sur ce revirement sur les contenus violents. Et là, évidemment, c'est une référence directe à Christchurch. Il déplore qu'en fait, il soit lui-même, Facebook, obligé de définir ce qui relève du terrorisme ou pas. Nous révisons continuellement nos politiques avec des experts, mais à notre échelle, nous commettons toujours des erreurs et nous prenons des décisions avec lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Que propose Mark Zuckerberg ? Vraiment des propositions contre lesquelles il s'est élevé pendant des années. Eh bien, la mise en place d'organismes tiers dont le rôle serait de définir des standards sur la diffusion des contenus violents et haineux et d'évaluer les entreprises sur la base de ces standards. Donc, des entreprises, y compris la sienne. Alors là, encore question, est-ce qu'il est de bonne foi quand il fait une telle proposition ou est-ce qu'il fait pertinemment que mettre en place des organismes tiers et surtout définir des politiques communes relève absolument du casse-tête ? Est-ce qu'il a vraiment envie de refiler le bébé ou est-ce que c'est simplement une posture ? Et sur la question des élections, il note, alors là c'est probablement la chose la plus intéressante, qu'en matière de publicité politique en ligne, et c'est évidemment un des problèmes qui est souvent levé, c'est d'abord les candidats et les élections qui sont véritablement visés par la législation et pas les thématiques ou les sujets politiques qui divisent. Donc évidemment, là on parle évidemment des fake news sur lesquels nous constatons, dit-il, le plus de tentatives d'interférence et Mark Zuckerberg d'appeler à une modernisation de la législation afin qu'elle reflète, je cite, la réalité des menaces actuelles. Donc on a un chef d'entreprise de la Silicon Valley qui en appelle à être régulé, qui nous dit en substance qu'il a trop de pouvoir et qu'il ne sait pas gérer ce pouvoir. Voilà, la question qui se pose réellement, c'est est-ce que Mark Zuckerberg est de bonne foi et que finalement il a compris qu'aussi pour perdurer, il faut qu'il s'engage réellement dans cette, transformation au risque sinon de ne pas survivre parce qu'il y a une défiance croissante et des usagers et des politiques, ou est-ce qu'on est sur, une déclaration d'intention dont il sait très bien qu'en réalité, elle sera difficilement suivie d'effet dans la mesure où ces organismes tiers, ces standards internationaux, personne aujourd'hui n'est capable de se mettre d'accord pour les définir.
Autre sujet pour lequel nous sommes cette fois juges et partis, le financement de l'audiovisuel public avec cette annonce cette semaine chez nos confrères de RMC du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui semblait favorable, Zoé, à la suppression de la redevance TV, un impôt assez injuste.
Alors c'est ça, c'est quand même à remettre dans un contexte, c'est Gérald Darmanin qui, sur RMC, était l'invité pour la couverture du grand débat, on est quand même dans un contexte avec les gilets jaunes, et il dit, vous me demandez quel impôt, si on devait en supprimer un, je supprimerais à condition qu'on trouve des économies, je trouve que la redevance télé est assez injuste, c'est un impôt qui mériterait de disparaître. Alors ce qui est intéressant, c'est que la redevance, il faut le rappeler, n'est pas un impôt, c'est une contribution, puisqu'elle n'est aujourd'hui payée que par les usagers de ce service. Un impôt, par définition, est payé par tous les contribuables, typiquement de l'éducation nationale. Si vous n'avez pas d'enfants, vous contribuez quand même au financement de l'éducation nationale. Il est très vite recadré ce matin par Franck Riester, le ministère de la Culture. C'était une proposition du citoyen Darmanin, mais c'est le ministre de la Culture, donc lui-même, qui est en charge de la réforme audiovisuelle, nous rappelle Franck Riester pudiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut rappeler que la redevance télé, elle est payée par 27 millions de foyers en France, qu'elle finance à hauteur de quasiment 4 milliards d'euros les entreprises dont nous, France Télévisions, Radio France, mais aussi l'INA et en partie Arte. Cette redevance, elle était, on le sait, elle était collectée via la taxe d'habitation. Or, la taxe d'habitation disparaît. Et aujourd'hui, pour collecter la redevance, il y aurait un coût énorme qui peut-être conduirait à ce que cette redevance ne soit pas rentable.
Donc une réforme est nécessaire dans
tous les cas. Une réforme est nécessaire dans tous les cas, et ce, au moment où il y a une réforme de fond sur l'audiovisuel public, en tout cas sur le contenu et sur l'éditorial. Alors Franck Riester rappelle, il faut financer l'audiovisuel public. Nous voulons un audiovisuel fort. La question, c'est d'avoir un financement qui soit à la hauteur des besoins, qui soit pérenne et qui garantisse l'indépendance de l'audiovisuel public vis-à-vis du pouvoir politique. Donc ça, ça fait partie effectivement des questions lancinantes qui n'ont toujours pas été réglées. On n'a toujours pas de piste dans la réforme audiovisuelle proposée par Franck Riester. Évidemment, dans un contexte où disons de contestation assez fort avec les gilets jaunes, la tentation est assez grande finalement de communiquer sur cet impôt. On n'a toujours pas de réponse.
Enfin, troisième actualité ce dimanche, l'adoption cette semaine au Parlement européen du projet de directive sur le droit d'auteur à l'ère numérique qui vise, selon ses artisans, à protéger les créateurs et à responsabiliser les plateformes. Adoption mouvementée, là encore, mais finalement votée par 348 voix contre 274. On a déjà, Zoé Sfez, longuement parlé de cette directive dans cette émission. Que peut-on en attendre et quel est le calendrier?
Alors, que peut-on en attendre? On ne sait pas vraiment, parce qu'il y a une philosophie qui effectivement sous-tend une directive. Il y a deux mesures très importantes et très controversées qui ont été adoptées. Je vous les rappelle, le fameux article 13, cette mesure qui prévoit qu'en fait, eh bien, les plateformes aujourd'hui n'étaient que des hébergeurs, elles n'étaient pas responsables des contenus diffusés. Qu'elles diffusaient, qui étaient hébergés sur
donc, notamment
sur
YouTube, Snapchat, Instagram, etc.
Ouais. Auparavant, vous postez une reprise, un clip, vous n'avez pas de droit, c'est piraté. YouTube est considéré comme un simple hébergeur, il ne fait rien, il relaie, et il est très content d'ailleurs, parce qu'il a beaucoup de contenu dans ses tuyaux. Aujourd'hui, avec cette directive, avant que ce contenu puisse être publié, la plateforme, donc YouTube par exemple, doit s'assurer soit qu'il est libre de droit, soit qu'il y a un ayant droit qu'elle pourra rétribuer, et que cet ayant droit est d'accord pour qu'on reposte son contenu. En pratique, évidemment, ça pose de nombreuses questions. Quelles technologies doivent développer les plateformes pour le faire? Est-ce qu'on ne va pas aller vers plus de censure? Voilà. Est-ce qu'on va vers une restriction de la créativité? Il faut dire qu'il y a eu une énorme campagne de YouTube qui a appelé y compris les YouTubeurs à protester contre cette directive. Donc c'est un gros échec en termes de campagne d'opinion pour les GAFA. Et puis cette autre mesure très importante, et là aussi on ne sait pas ce qu'elle donnera en pratique, je vous rappelle que c'est la création de droits voisins pour les éditeurs de presse. C'est vraisemblablement un article qui concerne très directement Google News, qui vise à ce que les éditeurs de presse puissent recevoir une rémunération lorsque leur article est reposté, en l'occurrence par Google News. Alors avec toujours cette même question, est-ce que Google acceptera de payer? Est-ce qu'on ne va pas vers plus de dépendance envers Google? Et quid de la qu'est-ce qu'on a que c'est qu'un article? À quel moment est-ce qu'on définit qu'un extrait c'est déjà l'article? Ce qu'il faut dire, c'est qu'une directive n'est jamais valable en elle-même. Ensuite, il faut qu'elle soit transposée dans le droit national. Et là, véritablement, les applications peuvent être très différentes et il peut y avoir vraiment des vrais changements de contenu et de finalement de conséquences pratiques au moment où il y aura une transposition dans les textes nationaux.
La directive doit être d'abord confirmée par un vote des États membres, puis donc transposée, vous l'avez dit, dans le droit national. Ce sera d'ici 2021. Dans un instant, on parle santé sur France Culture. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, un mot sur le nouveau clip de PNL, duo de rap français. Le titre s'intitule ODD, ODD, et il annonce la sortie du nouvel album de PNL qui sera intitulé Deux Frères le 5 avril. Vidéo spectaculaire au sommet de la Tour Eiffel qui a déjà été vue par plus de 30 millions de personnes. La Tour Eiffel est squattée par des drogués, tagués, malmenés. C'est un laboratoire même déglingué où l'on fabrique de la drogue revendue par la suite au détail. Didi, le titre du morceau. Mais la référence peut être aussi celle de l'overdose, ODD en argot américain. En tout cas, on est dans un monde à la fois vertigineux et renversé. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave. Je suis baisé par Paname. Et la vidéo, bien sûr, fait scandale. Tariq dit Ademo et Nabil dit Nos, N-O-S, les deux frères en Andrieux ont connu eux-mêmes la drogue. Leur père, un ancien braqueur, a fait 8 ans de prison. Tariq, l'un des chanteurs, a passé plus de 3 ans également en prison à Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants. Polémique donc encore. La vidéo a-t-elle vraiment été tournée au sommet de la Tour Eiffel? Tout le monde se posait la question jusqu'à ce que la société qui gère la Tour Eiffel confirme le tournage en décembre de nuit avec des plans filmés par drone. Nos et Ademo, les deux frères de la cité des Tarterets à Corbeil-Essonne, ont réussi leur coup avec Odidi, pulvérisant tous les records du rap français. La musique est forte, entraînante, enivrante, mélodique aussi, malgré ou grâce à un usage abusif de l'autotune, un peu comme si l'autotune était devenu un instrument à part entière chez PNL. Les paroles, elles, sont explicites, violentes, ultra-violentes, mais aussi passablement misogynes, homophobes ou contre les riches. Et nous diffusons le morceau sur France Culture avec les mises en garde d'usage, du fait surtout des références codées à la drogue. PNL, ODD, plus de 30 millions de vues déjà sur YouTube en une semaine. En ce moment, c'est ça le soft power français, mais ça en dit également long sur le rap made in France et peut-être aussi sur notre époque.
Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je commets. Sur ton cœur, je fais trop de poulettes, je fais tache de sang sur le pull. Je désire nullement vous connaître, ni toi ni ces fils de pute. Je me tire d'ici si je m'écoute, sans corse mélanger bougnoule. La lune, j'aime plus, je vous la laisse seule. Je m'endors sous doré, sous new. Je suis ni de chez moi, ni de chez vous. Elle veut la bise avec je la baise. Je connais la route, connais l'adresse. Je t'encule sur le continent d'Hadès. Sale comme ta neige, neige courte. Forte comme la peuf, j'écoute. Je tire la gueule, je n'écoute que mon âme seule, mec tout. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Je meurs dans un cauchemar exotique où la terre ressemble à ma tombe. Ego, pourquoi toi tu parles en ego? Si ça se tue, ouais, dis-moi qui signe. Pas d'honneur, toi tu sens d'ici. Voilà, baba m'a dit mon fils, non, non. Toi pas calculer ses pétales. Moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales. ODD, je la passe la détail, la paix coule, la vie sert des regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton PV. Je recherche un billet, des affaires, des plans dans la planque un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu dis les pectoraux gainés. Les bacs que t'es marre parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis H24, j'y fais des singeries. La rue, je la dévale à toute allure avec du Gucci comme Mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec le seum qui fait peur aux riches. Que la famille, personne ne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par Paname.
Sans bénéfice de l'argent, jamais n'est que le gramme.
Me sens pas trop humain, pas comme Hugo habité. Ah. Y'a du sang vidé. Ah. Oh Dédé,
Dédé,
deuxième
negré,
farcé. T'as reconnu le cri côté animal. Merde, je connais le prix, le canon animal. Oh Dédé. Que la famille dans le bâton te la bouche d'aide. Oh Dédé,
pas mélanger, cœur d'étranger. Rien n'a changé.
Ce qui doit arriver va arriver. C'est peut-être mon dernier album. Peut-être ma dernière putain. Peut-être mon dernier sourire de toi. Dans mon gars, pas plus de haine que d'amour que j'argue entre mes tours. Moi du matin après minuit, je sors casser mon tour sur un nuage de l'enfer. Viens se casse mon frère, avant qu'on se perde.
À l'instant PNL ODD qu'on garde en musique de fond, puisque dans le studio on en parlait, comme quoi ça intéresse nos invités, bien que ce ne soit pas le sujet de la deuxième partie de cette émission. Victoire Ensondé, vous pensez quoi de cette musique qu'on écoute à l'instant?
C'est dans l'air du temps, après moi les textes je trouve très crus, trop crus. Je suis pas sûr.
Et vos enfants, ils aiment, par exemple?
Ah bah oui, moi j'ai des enfants qui sont adolescents et ça fait une semaine que j'entends parler de la sortie de... C'est très bien orchestré, je pense qu'ils ont tout compris sur le plan, en tout cas marketing, ils ont tout compris. C'est vrai qu'ils ont un certain talent. Après, est-ce qu'ils sont forcément conscients de là où ils emmènent leur public? Quand on a 15 ans et qu'on écoute ça, on se dit quoi derrière? Moi ça m'interroge quand même.
Au Figaro, tout le monde danse sur ça, Damien Mascret.
Mais bien sûr, ça passe en boucle. Ça passe en boucle. Non, à la maison, c'est plutôt la K-pop, donc non.
La K-pop, la pop coréenne.
Ah oui, depuis longtemps, donc.
Non, ah oui, c'est autre chose.
Ça, je connais bien.
Oui, puis c'est beaucoup
BTS,
plus soft.
Hein. Les débats, là aussi, hein, il se passe des choses aussi.
Il y a BoA aussi dans la K-pop, je vous recommande BoA.
Ah d'accord, ouais, merci. Merci
Zoé.
Il faut dire deux choses quand même sur PNL, c'est qu'ils ont égonomisé, enfin, organisé une communication de la rareté. Ils ont quasiment pas de communication sur les réseaux sociaux.
Ils font pas d'interview.
Ils ne font pas d'interview. Donc ils organisent une espèce de mythologie comme ça. Et
puis tout à coup, on les retrouve au sommet de la Tour Eiffel.
Les enfants de 15 ans ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et puis, il y a des gens qui considèrent qu'il y a des messages cryptiques, carrément mythologiques, beaucoup plus profonds au fond dans ces textes.
Ouais.
Beaucoup de références, beaucoup de sites qui, pendant des heures et des heures, voient des fans interpréter le moindre mot.
Vous voulez dire, c'est un peu Saint-Jean de Pierce, quoi, on pourrait dire.
Et ben, pour certains, c'est
Saint-Jean de Pierce. Il paraît que dans les soirées de Normandie, on écoute ça.
C'est vrai.
France Culture, 19h20.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
La loi santé vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle propose notamment la généralisation des prescriptions électroniques, je l'ai dit, la création d'un espace numérique de santé qui sera disponible dès 2022 pour les patients et le développement des télésoins. On le voit, le secteur de la santé profondément transformé par le numérique et c'est le sujet. Et c'est le sujet de notre émission ce soir. Un article que j'ai utilisé pour préparer cette émission du journal The Time. C'était un article du 17 décembre dernier. Explique que la santé est la nouvelle frontière pour les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. En gros, la nouvelle frontière pour l'industrie du numérique aux États-Unis. Alors, pour commencer, avec deux invités qui sont en direct en plateau, Damien Mascret, médecin, journaliste au Figaro, et Victoire Ensondé, journaliste santé et consommation, chroniqueuse à France 5. On peut commencer peut-être par la loi qui a été donc adoptée en première lecture cette semaine et par ses innovations. Damien Mascret, je les évoquais un petit peu, mais on peut peut-être débattre de ces 3-4 axes qui concernent le numérique.
Déjà, l'idée de créer un espace numérique en santé, alors de pas créer une machine complètement lourde et obsolète, au contraire, là on est vraiment parti sur l'idée de créer quelque chose avec la garantie de l'État, la garantie de neutralité, la garantie de protection des données, hein, qui est très importante. On a parlé de la RGPD, de la réglementation il y a un instant, en créant tout ça avec l'État, mais en le laissant ouvert aux innovateurs, aux créateurs. On est vraiment sur un nouveau système, une nouvelle façon de penser dans laquelle l'État intervient, mais laisse ensuite les acteurs créer. Donc ça me paraît vraiment un changement de philosophie très important. Et puis la deuxième chose qui me paraît très importante, c'est vrai que là, cette fois-ci, les outils pour la prescription électronique, des ordonnances...
Alors ça veut dire concrètement qu'il n'y aurait plus à terme de prescription papier. C'est en tout cas ce qu'annonce la ministre. On va chez un médecin, il vous faut une prescription, mais il n'y a plus de papier. Tout ça va se transmettre électroniquement, éventuellement.
Voilà, on peut s'en passer. Et puis aussi, on peut même ne pas aller chez le médecin et avoir la prescription électronique.
Alors ça, c'est les télésoins.
Sans aller chez le médecin. Voilà, on est sur les télésoins. Donc, on a un petit peu toute la gamme qui est en train de se mettre en place. En gros, on est en train de dire, ça y est, on y va maintenant. On en a assez parlé pendant longtemps. Maintenant, on y va. On met en place les outils pour vraiment faire du télésoin, de la télémédecine, de la santé numérique.
Victoire Ensondé.
C'est intéressant. Moi, la question que ça soulève pour moi, c'est comment on sécurise tout ça? Parce que c'est évident que par exemple, les prescriptions électroniques, on va y venir avec les téléconsultations, avec les soins à distance.
Puis en soi, ça change pas grand chose.
Oui, mais la question, c'est qu'on fait entrer des acteurs privés, malgré tout, l'État coordonne. Comment, qui est le chef d'orchestre et comment on sécurise tout ça? Parce que c'est pas toujours évident, en fait, pour les auditeurs. Une simple ordonnance, ça peut dire beaucoup, finalement, sur soi.
Oui, mais elle est déjà aujourd'hui scannée, l'ordonnance. Elle est désormais mémorisée chez les pharmaciens, par exemple.
Oui, mais on est chez le pharmacien. Aujourd'hui, on a le médecin, on a le patient et le pharmacien qui a ces informations-là. Aussi, la mutuelle, la complémentaire santé. Mais on n'a pas d'acteur privé qui, enfin, ça commence avec les téléconsultations, ça commence. Donc, la question, c'est comment, qui a accès à quoi et qu'est-ce qu'on peut faire derrière? La question se pose déjà aujourd'hui. Par exemple, l'assurance maladie, on le sait bien, c'est une base de données faramineuse. Quand on travaille sur cette base, tout est anonymisé. Parce que sinon, on peut avoir beaucoup d'informations sur les gens. Donc, à l'avenir, c'est gigantesque ce que ça ouvre. Il va vraiment falloir se poser la question de savoir qui dispose de quoi et qu'est-ce qu'on pourra faire avec.
Sur le compte de santé, l'espace numérique de santé, donc, qui serait disponible dès 2022 pour les patients, il s'agirait donc d'un compte personnel unique qu'on créerait dès la naissance de la personne, accessible sur tout support, téléphone, etc., ordinateur, qui contiendrait le dossier médical partagé ou le carnet, disons, de santé numérique, les données de remboursement de ses dépenses de santé, etc. Et ça, on est déjà lancé puisque 50 millions d'euros sur 3 ans ont été budgétés pour le préparer, en fait, Damien.
On va tout rassembler en un seul lieu avec toujours cette garantie qui est que l'utilisateur, l'usager, va autoriser les accès. Autoriser les accès soit transitoirement, soit partiellement. Parlement, seulement une zone de tout ce dossier, et surtout une préoccupation qu'il n'y avait pas au début, quand on a essayé de faire des dossiers médicaux informatisés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le souci d'interopérabilité. C'est vraiment ça qui est important. S'il n'y a pas d'interopérabilité, ça ne marchera jamais, c'est évident. Donc là, on a laissé cette fois-ci, j'allais dire, les spécialistes, pas forcément de la santé, mais les spécialistes du numérique et de ces problématiques, se saisir du problème. Ce qui fait que on n'a pas mis la charrue avant les bœufs comme on l'avait fait avant. Cette fois-ci, on commence avec les bœufs, si je puis dire, et puis on est en train de mettre un système au point où il va falloir naviguer, effectivement, Victor l'a dit, il va falloir naviguer entre protection, sans aller trop loin, hein, parce qu'on arrive parfois où il faut anonymiser le consentement, ce qui devient ridicule, parce qu'on a, le consentement, on a besoin de savoir qui l'a fait. Et on a parfois des informaticiens qui disent...
Mais qui va répondre, qui va remplir ces éléments sur le carnet
alors,
de santé?
D'abord, il y aura des systèmes qui automatiquement vont les remplir, hein, votre dossier médical, votre dossier pharmaceutique,
le dossier à l'hôpital. Ce qui est déjà un peu le cas, en fait, mais qui n'est accessible qu'aux médecins. Quand vous allez voir, par exemple, un généraliste, il peut voir, grâce à votre carte vitale, si vous avez été chez le gynécologue, chez le dermatologue, lui, il le voit.
Alors, il peut voir certaines choses, voilà. Il peut voir certaines choses de la sécurité sociale, il peut pas tout voir. Il peut pas voir si vous avez été dans tel hôpital, par exemple. Il saura pas ce qui s'est passé dans l'hôpital. Il peut avoir des données de remboursement, mais il peut ne pas avoir ça.
Si vous êtes allé chez un autre généraliste avant lui, il le sait.
S'il y a eu remboursement par l'assurance maladie, bien sûr. Par contre, s'il n'y a pas eu de remboursement, non, il saura pas. Ça peut être aveugle. Donc aujourd'hui, c'était un des reproches d'ailleurs au dossier médical au départ, c'était qu'on est aveugle sur beaucoup de choses, ce qui est dommage parce que dans la santé, on a besoin de tout savoir. Mais aussi, attention, il faut que ça soit sécurisé. Il n'est pas question d'échanger des emails comme on le fait aujourd'hui, parce que finalement aujourd'hui, on a des gens qui envoient des emails à leur médecin sans savoir que du coup tout ce qu'ils ont mis dans l'email est passé complètement.
Et puis en plus, il n'est pas rémunéré pour cet envoi de télésoins, alors que peut-être il va l'être bientôt.
Oui, puis c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui, par exemple, quand on sort de l'hôpital et qu'on rentre chez soi, on a un problème de suivi. L'idéal serait d'avoir vraiment un objet en fait numérique qui permette de, quand on retourne chez son médecin généraliste, on sort de l'hôpital, il a déjà l'ordonnance du médecin à l'hôpital, il a déjà le compte rendu d'hospitalisation, parce qu'on sait bien aujourd'hui que dans les faits ça ne fonctionne pas très bien tout ça. Donc ces outils-là, ils peuvent permettre ça, éviter les errances médicales, éviter ces difficultés de coordination par exemple entre l'hôpital et puis la médecine de ville.
Alors vous avez évoqué tout ça autour de cette loi. La loi, rappelons-le, n'est pas encore définitive. Elle a été votée cette semaine, mardi, à l'Assemblée nationale, première lecture. Elle doit maintenant être débattue au Sénat. Ça sera, je crois, en mi-mai. Et puis éventuellement, elle reviendra à l'Assemblée nationale, peut-être même plusieurs fois. S'il y a une navette, on en reparlera. Alors plusieurs sujets que j'aimerais évoquer en lien avec cette loi, mais aussi avec d'autres sujets, disons, qui ont un écho avec le sujet global de cette émission loi et santé et numérique. Commençons par l'automédication parmi les sujets qu'on voulait traiter ce soir, les avantages et les limites de l'automédication. Alors évidemment on pense à des sites, l'un des plus célèbres c'est Doctissimo qui appartient à TF1, il a été revendu il y a quelques mois par le groupe Lagardère qui le possédait auparavant. Alors l'automédication, on peut le voir sous un aspect positif, c'est bien dans certains aspects et puis moins bien dans d'autres, Victoire Nsondé.
Bah oui, le côté positif c'est que quand on a un petit rhume, quelque chose d'assez léger, c'est pas la peine d'aller encombrer les salles d'attente des médecins, surtout en période hivernale, où on risque d'attraper la grippe, la gastro-entérite, et puis de faire perdre du temps au médecin qui a besoin de voir des patients qui sont plus malades.
Et le cas échéant, c'est aussi, ça fait faire des économies à la sécurité sociale, puisque également, ces médicaments ne sont pas remboursés.
L'inconvénient, c'est qu'en France, on le sait, on est un peu les champions du médicament, et qu'en automédication, on a parfois, par exemple, des médicaments célèbres de marques que je ne citerai pas, contre le rhume, qui ne servent à rien, mais qui ont du paracétamol et un vasoconstricteur et un antihistaminique, etc. Et que finalement, on prend ça sans se rendre compte qu'on a quand même plusieurs substances actives, des médicaments qui servent à rien, mais qui peuvent avoir des effets indésirables chez, par exemple, des gens qui sont déjà fragiles, des personnes âgées, etc. Donc, l'automédication, c'est compliqué. Ça peut être utile, mais ça demande un cadre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le pharmacien qui est censé orchestrer tout ça.
Est quand même un professionnel de santé.
Oui, tout à fait.
Quelles sont les règles, justement, à respecter pour l'automédication? Qu'est-ce que vous recommanderiez les autres?
Je pense que ce qui est important, c'est de se dire, par exemple, il y a certaines pathologies qui guérissent toutes seules. Enfin, quand on a un rhume, ça dure 5 jours. C'est embêtant. On a le nez plein, mais on n'a pas besoin de se bourré de médicaments. Alors, on peut prendre, je parle sous le contrôle du médecin, on peut prendre du paracétamol si on a mal à la tête, 2-3 choses. Ouais. Mais moi, tous les hivers, je fais la guerre autour de moi en disant c'est quoi des gens qui ont un rhume, ils ont une.
Donc,
une
vous empêchez vos enfants d'écouter PNL et par ailleurs, ils ne peuvent pas prendre les médicaments. Exactement. Mais en plus, c'est une prison chez vous.
C'est important de revenir. Le médicament, ça reste un poison en puissance. Il y a un rapport bénéfice-risque qui doit quand même toujours primer, je pense.
Damien Mascret.
Oui, alors c'est vrai que par définition, un produit d'automédication a un rapport bénéfice-risque favorable. Il faut quand même le rappeler, c'est que s'il a été autorisé à l'automédication, c'est qu'il a un rapport bénéfice-risque favorable. Mais c'est un rapport bénéfice favorable dans ses indications. Ce qui veut dire qu'on doit vraiment tout respecter. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'au passage, l'automédication, quand on est une femme enceinte ou allaitante, prudence. Quand on est un enfant de moins de 15 ans, prudence.
Ou si on est déjà sous traitement, par
quand
exemple.
Quand on a une maladie chronique, exactement. Prudence également. Dans tous ces cas-là, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Donc on a besoin évidemment du professionnel de santé, on a besoin du pharmacien. On doit se méfier évidemment de ce qui est commandé par Internet ou ce qui est déjà dans la pharmacie familiale.
Alors juste un petit conseil ou un petit rappel, j'ai tapé tout à l'heure à titre indicatif angine que faire, parce que j'en ai eu une la semaine dernière. Et donc effectivement, vous tombez très vite sur des sites privés, donc Doctissimo, pour ne pas citer un autre site qui s'appelle Passeport Santé, qui a acheté des bons référencements sur Google, Top Santé. Et au bout de la 11e occurrence, il y a quelque chose que moi j'ai découvert récemment, qui est le site Amélie, le site de l'assurance maladie, en réalité, a véritablement investi ce champ assez tard, il faut le dire, face à l'immense suprématie d'Octissimo en la matière. Mais Amélie, par exemple, si vous avez des doutes, pouvez aller quand même sur le site de l'assurance maladie, qui commence depuis quelques années à être plutôt très bien fait sur ces questions-là, voire parfois vous pousse exactement à ça, à vous économiser une visite chez le médecin. Ça, c'est peut-être un petit peu la remarque qu'on peut se faire sur cette question, lien entre la loi santé et ce qu'on est en train d'aborder maintenant. C'est cette fameuse tension entre, dans une loi qui prévoit cet usage numérique qui existe aujourd'hui, du rapport qu'on a aujourd'hui avec le numérique quand au regard de la santé, c'est cette tension entre ce qu'on peut faire pour véritablement être vers plus de praticité, plus de fluidité et aussi être en phase avec des pratiques que les Français ont déjà, et puis la tentation quand même de pousser à des économies, parce qu'on est quand même toujours sur un secteur extrêmement pesant financièrement, et qu'il y a toujours quand même cette tentation de se dire que l'État pourrait être tenté à un moment donné d'économiser le plus possible avec à pousser vers la consultation en ligne ou la prescription en ligne.
Damien Mascret.
Oui, c'est vrai que le site d'abord Amélie est très bien fait, effectivement, la sécurité sociale.
Mais il arrive loin derrière, on y accède.
Il arrive,
il faut le vouloir.
De plus en plus près. Normalement, il est sur la première page. Pendant très longtemps, il était sur la quatrième page des recherches Google.
Effectivement, alors Google peut aussi favoriser des sources, effectivement, qu'il considère comme étant de référence et donc considérer que les sources de l'État sont des sources de référence. Donc c'est vrai que c'est très bien fait. Alors ensuite, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué aussi dès lors que ça devient une pratique habituelle, et c'est une des craintes qui a été d'ailleurs évoquée lors des débats parlementaires avec la prescription par le pharmacien. C'est une des craintes qui a été qu'il y ait une sorte de médecine, d'ubérisation de la médecine, ou en tout cas médecine low cost, c'est-à-dire que vous avez les moyens, vous trouvez toujours un médecin qui va vous prendre, ou etc. Et vous n'avez pas les moyens, ou vous considérez que vous allez économiser de l'argent, et vous allez passer par des circuits comme ça qui évitent forcément le professionnel de santé, le pharmacien ou le médecin ou l'infirmière, et donc un risque finalement qu'on ait quelque chose à deux vitesses sans le dire, qui arrange bien tout le monde, qui arrange bien les deniers de la sécurité sociale et qui au final serait préjudiciable au consommateur, à l'usager.
Un mot sur Doctissimo, qui est à la fois un site avec des informations vérifiées, d'ailleurs produites par les médecins, mais avec également une partie forum. Et c'est là où il y a un double au fond. Et parfois on ne sait pas exactement, enfin toujours très clairement, si c'est une information par un médecin, qui d'ailleurs elle-même peut être sujette à débat, ou simplement un forum où tout le monde peut écrire un peu ce qu'il veut sur ce point, Damien Mascret.
C'est vrai que là aussi, il faut être toujours clair avec les usagers. On a la même problématique d'ailleurs avec Doctolib, qui s'appelle Docto, donc on pense que c'est des docteurs, alors qu'on peut avoir affaire à des professionnels de santé qui ne sont absolument pas docteurs. Cultiver l'ambiguïté, certes, ça fait du clic, ça fait de l'audience, mais ça peut induire le consommateur, l'usager, en erreur. Et en particulier, quand on entre dans le monde du médicament et des solutions parfois alternatives, mais qui ne sont pas toujours, qui ne devraient pas l'être en tout cas, il peut y avoir des dangers, effectivement.
Alors, vous venez d'évoquer Doctolib, parlons-en maintenant. Doctolib et Mon Docteur, par exemple, ce sont des sites qui favorisent la prise en ligne des rendez-vous des médecins. Enfin, c'est leur objectif. Les deux sites viennent de fusionner. L'entreprise franco-allemande Doctolib a pu acquérir cet été, d'ailleurs l'été dernier, son principal concurrent, la start-up française Mon Docteur, jusque-là détenue par ses trois fondateurs et je crois par Lagardère Active. L'objectif pour Doctolib est de devenir le leader européen de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Une réaction sur ce type de pratiques qui, semble-t-il, ont tendance à se généraliser, Victoire Nsondé.
Du bien et du moins bien. Le bien, tout le monde a pu en faire l'expérience, parce que ça a beaucoup de succès à Doctolib. Vous avez besoin de prendre un rendez-vous, vous pouvez le dimanche à minuit aller sur Internet et puis prendre votre rendez-vous. Donc ça, c'est bien. L'inconvénient, c'est que On peut favoriser aussi l'errance médicale. Quelqu'un peut, moi j'en connais des gens qui vont...
L'errance, c'est-à-dire au fond le nomadisme.
Le nomadisme médical. On va voir une personne, un médecin, et puis on prend un rendez-vous avec un autre. C'est important d'avoir un suivi. On a un médecin traitant qui coordonne. Quand il n'est pas disponible, on essaie d'en voir un autre. Donc c'est bien de prendre rendez-vous avec son médecin traitant ou son spécialiste par ce biais-là, parce que Doctolib permet ça. Le problème, c'est des gens qui vont aller voir des tas de médecins différents et personne ne va assurer le suivi. Donc personne n'est au courant vraiment de la situation de la personne. Après, Doctolib fonctionne aussi parce que par exemple, on peut connaître les tarifs du médecin. Et comme on ne doit jamais demander, on a l'information sans avoir à la demander.
Alors, il paraît que c'est pas c'est pas le cas tout le temps.
Il peut y avoir parfois des erreurs.
Comment se rémunère Doctolib? C'est au fond des abonnements, je crois, payés par les praticiens, c'est ça?
Oui, les médecins doivent payer pour bénéficier du service.
Ils payent combien
Doctolib
à peu près?
Alors, c'est autour
une centaine
de
d'euros,
80
c'est ça
à 100 euros. Ça dépend si c'est avec la téléconsultation ou pas, mais en tout cas, oui, c'est autour de 100 euros, 109, je crois, ou 108.
Et ça lui rapporte quoi, d'une certaine manière, au praticien?
Il a beaucoup moins de rendez-vous annulés, par exemple. C'est un
parce
des
qu'on
gros
vous envoie
avantages.
Des SMS, tout ça.
Parce que, comme c'est très facile à la fois de prendre le rendez-vous et à la fois de l'annuler, ils se retrouvent beaucoup moins, les médecins disent, on se retrouve moins avec des gens qui ne viennent pas. Alors, ils ne viennent pas, mais ils ont prévenu. Donc, la place s'est à nouveau relibérée et à nouveau été re-remplie.
Donc, ça offre une sorte de logiciel d'agenda qui gère leur rendez-vous, l'organisation de leur journée et permet donc de réduire le nombre d'appels. Faut pas l'oublier et les rendez-vous non aurez vous pensé c'est ça la
ah oui
clé.
Complètement c'est vraiment un confort pour le praticien.
Mais alors déjà oui on peut dire que c'est effectivement très pratique notamment sur des spécialités la dermatologie l'ophtalmologie qui sont des délais très 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 longs où vous pouvez avoir plus de chances de trouver. Après il y a aussi un risque pour les praticiens et ça commence à venir, c'est j'allais pas dire l'ubérisation mais plutôt la bookingisation. Vous connaissez ce fameux phénomène de booking qui est devenu l'intermédiaire entre les hôtels et les gens qui vont à l'hôtel. Aujourd'hui même si vous avez un hôtel que vous aimez bien et vous descendez régulièrement, vous allez avoir tendance à passer par la plateforme de Booking parce que c'est plus pratique. Et là, c'est pareil. Doctolib est en train d'être à la fois un facilitateur et quelqu'un qui amène de la patientèle et en même temps, ça devient un intermédiaire quasiment immanquable entre vous et votre patientèle. Ça, d'une certaine manière, vous déléguez ce lien à une tierce personne. C'est vrai dans plein d'endroits dans le numérique, mais il se trouve que sur le domaine de la santé, c'est quand même complexe. Là encore, il y a cette idée qu'on est sur un acteur totalement privé,
qui va désormais avoir le monopole
énorme et qui a une forme de monopole, puisque en plus, mon docteur était le seul concurrent, je crois, à ma connaissance, sérieux à Doctolib. Il devient la seule et même
française.
Entité.
Victoire Nsondé, que se passe-t-il pour les données chez Doctolib?
Pour
les données.
Les données, les data.
Bah, c'est toujours la même question en fait. Les données, elles sont recueillies par Doctolib, qui est un acteur privé. Alors aujourd'hui, il dispose d'informations qui restent limitées, mais je dis aujourd'hui parce que Doctolib, il se positionne aussi dans la téléconsultation. Il se propose aussi comme plateforme pour faire l'intermédiaire pour proposer la numérisation des informations électroniques, par exemple de l'ordonnance, et aussi le système de visuel en fait pour pouvoir faire la téléconsultation. Donc là, c'est à venir. Je pense que là, il y a
on
là.
On peut aussi imaginer qu'il faudra payer ensuite, ou en tout cas que les médecins seront un peu contraints une fois qu'ils auront une forme de monopole. On retrouve ces types de problèmes.
Oui, après aujourd'hui, comme on le disait, on a le règlement RGPD qui s'applique aussi pour les données de santé. Aujourd'hui, malgré tout, en France, on a un cadre qui, pour l'instant, est quand même solide et qui fait que. Bon, on devrait, des gens comme Doctolib, en plus ils sont surveillés de près, ils n'ont plus de concurrents, bon, on devrait limiter le...
Doctolib précise que la plateforme précise qu'elle n'a pas accès aux données des patients qui sont encryptées et propriété des seuls médecins, c'est en tout cas ça qu'il précise.
Alors oui, avec cette nuance quand même que quand on prend rendez-vous avec un spécialiste de l'amylose cardiaque et de maladie rare, on se dit bien pourquoi on a pris rendez-vous avec lui. Si on prend rendez-vous dans un service de maladie infectieuse, on peut aussi se demander si c'est un rendez-vous régulier. Enfin voilà, par croisement, on peut quand même récupérer beaucoup plus de données que ne le dit le site. Donc
et c'est de la même manière, on pourrait se demander aussi pourquoi, d'une certaine manière, l'assurance maladie ne prendrait pas en charge ce type d'activité. Ça pourrait faire partie des services assurés par, d'une certaine manière, la puissance publique.
Mais dans ce cas-là, ça ne marchera pas comme très souvent.
Mais là, c'est tellement facile.
Mais l'assurance maladie, elle a un système qui se voulait un peu de cet endroit-là, qui s'appelle. Elle a un annuaire. Sur Amélie, il y a un annuaire où, au départ, on peut regarder dans son environnement quels sont les médecins. Alors, on ne peut pas prendre rendez-vous, on peut voir quels sont les médecins, on peut connaître leurs tarifs. Donc, mais moi, j'ai encore regardé hier. Et je trouve qu'il rame un petit peu, si je peux me permettre. Et moi, j'ai essayé d'avoir, par exemple, les tarifs des médecins. Ça n'a pas fonctionné. Donc, Amélie a essayé d'aller dans ce sens-là. Force est de constater qu'elle a un peu baissé les bras face à Doctolib.
Alors on va parler des médecins en ligne, puisque tout le monde va en ligne. Il y a aussi les pharmaciens qui sont en ligne. Qu'est-ce qui est autorisé, Damien Mascret? Qu'est-ce qui est interdit? Sans parler de la risque de contrefaçon, je pense aux médicaments achetés en ligne qui parfois peuvent ne pas être des médicaments homologués.
Bien sûr. Alors tout à l'heure, Zoé disait qu'effectivement, entre une directive européenne et sa transposition en droit national, il peut se passer des choses. C'est évidemment ce qui s'est passé en France quand on a dit, maintenant c'est libéralisation. Après tout, un vendeur de médicaments aux Pays-Bas a le droit de vendre du médicament en France. Pourquoi ce monopole? Et puis la France a freiné des quatre fers de toutes les façons imaginables. Pour des raisons légitimes aussi, parce qu'en France, on a un système particulièrement performant de pharmacie, certes, mais il n'empêche que là, on devrait théoriquement l'autoriser, en tout cas pour les médicaments qui sont en accès libre, en automédication, justement, on en parlait tout à l'heure. Et on voit que même là, on essaie encore de freiner, d'empêcher, de bloquer cette possibilité d'accéder aux médicaments. On a, par exemple, obligé en France à ce que ça soit adossé à une pharmacie physique. Un pharmacien qui veut vendre du médicament sur Internet doit avoir sa pharmacie physique, doit avoir son stock, doit préparer. Les médicaments doivent être dans la pharmacie. Enfin, il y a tout des tas d'obligations qui ont été rajoutées simplement dans le souci de freiner, de bloquer l'arrivée d'investisseurs étrangers ou d'usagers du système qui voudraient contourner complètement le système français.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
On parle santé et numérique ce soir dans Soft Power avec Damien Mascret, médecin, journaliste au Figaro, et Victoire Nsondé, journaliste santé et consommation chroniqueuse à France 5. Alors on a déjà évoqué un certain nombre de sujets. Je vous propose de parler maintenant des applications de santé et au fond le problème encore une fois de la sécurisation des données, mais pas simplement, aussi tout simplement des effets, des progrès ou parfois des problèmes que ça peut poser en termes par exemple d'interprétation des résultats. Alors on a tous vu ou entendu parler de ces montres ou de ces applications connectées qui vous indiquent alors votre tension, vous aident à évaluer votre diabète ou alors votre arythmie cardiaque ou fibrillation cardiaque également. Là encore, progrès et limites. Commençons peut-être par les progrès, Damien Mascret.
Les progrès, c'est qu'on va pouvoir récupérer effectivement des données d'une façon beaucoup plus simple que c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, souvent, il faut des appareillages complexes ou alors mis en place par des professionnels. Donc, c'est assez complexe.
Alors puis avec la régularité aussi, qui est point très important.
Et voilà, et la régularité, parce que même si vous enregistrez le rythme cardiaque de quelqu'un pendant 24 heures, vous n'allez pas le faire pendant une semaine ou pendant un mois. Alors que là, la montre, par exemple, peut très bien enregistrer ça en permanence et repérer un épisode. On parlait de l'arythmie, c'est quand le rythme cardiaque n'est pas régulier. C'est par épisode, quand ça se produit, la personne ne se sent pas bien. Là, elle va voir tout de suite sur sa montre que ça se produit.
Si elle est allée au rendez-vous une semaine avant,
alors
elle l'a pas vu.
Au moment du rendez-vous, on ne va pas le voir forcément. Donc, on voit bien, on l'avait vu avec les appareils d'automesure. On n'était pas encore dans l'intelligence artificielle d'automesure de la tension. On a plus de 3-4 millions de Français qui ont un appareil d'automesure de tension chez eux. Ça a permis de révéler parfois des hypertensions qui n'apparaissaient pas quand on était au cabinet du médecin. Et à l'inverse, de corriger, on croyait que la personne était hypertendue parce que chez le médecin, le stress, le rendez-vous, l'attente faisait que la tension montait et en fait il n'y avait pas d'hypertension, alors qu'à domicile...
Ça, par exemple, l'Apple Watch peut calculer ça assez bien et ça c'est un avantage.
Exactement.
À vos yeux.
Ça a été d'ailleurs une des grosses réussites au congrès américain de cardiologie la semaine dernière où ils ont publié une étude sur, alors en plus c'est considérable, sur 450 000 personnes qui a priori se plaignaient de rien et on s'aperçoit dans cette population qu'il y avait environ 0,5% de ces patients qui avaient effectivement des épisodes d'arythmie et qui ensuite donc ont été bien sûr orientés vers des services médicaux, où dans les deux tiers des cas, ça a été confirmé. Il y avait bien une arythmie, on s'est aperçu. Donc ça peut être un moyen de détecter.
Grâce à l'Apple Watch,
à l'Apple Watch, tout à fait. Ça a été
Toujours au niveau des points positifs, d'abord, on a aussi tout un tas d'évolutions. On pense au textile intelligent, on pense aux lentilles de contact qui aident pour le diabète, je crois.
Exactement.
Expliquez-nous comment ça marche.
Comme tous les liquides du corps, que ce soit le sang ou les yeux, dans les larmes, vous avez votre taux de sucre qui peut être révélé. Donc l'idée, c'est que éventuellement, par exemple, avec cette lentille, il y a une sorte de capteur, on est quasiment dans Minority Report, mais une sorte de capteur qui vous indique, je ne dis pas que la batterie va descendre, mais peut-être le taux de sucre qui est en train de descendre ou qui est trop bas. Alors, ça ne va pas être en permanence dans votre œil, sinon c'est pénible. Mais en tout cas, au moment où il y a un signal pour vous dire, attention, vous êtes en train de descendre, votre taux de sucre chute, vous êtes en hypoglycémie, il est temps de vous resucrer, comme on dit, de reprendre un petit peu de sucre. Donc oui, on a ces appareils.
Textiles intelligents.
On a aussi des textiles. Alors par exemple, on a des t-shirts qui sont en train d'être développés là aussi pour détecter soit des problèmes cardiaques, soit des problèmes de modification de température, soit des infections, des choses comme ça. On est en train de voir, notamment avec la nanomédecine, c'est-à-dire ces matériaux très très petits, qu'il est possible peut-être avec un simple capteur posé sur la peau de signaler, de faire un petit peu office d'alerte, de signaler des tas de choses.
Victoire Nsondé, passons peut-être, je ne veux pas vous donner le rôle de négatif systématiquement.
Non, je vais être un peu rabat-joie, c'est la question.
Mais quels sont les problèmes du coup de ces applications, montres et autres outils connectés?
Bon, déjà, on voit Apple Watch, ce qui pose un problème, c'est que c'est Apple qui est derrière. Mm-hmm. Moi, je me dis, c'est bien qu'au niveau de l'hôpital, la clinique, voilà, on a besoin d'un suivi, plutôt qu'on ne peut pas le faire sur une semaine, deux semaines à l'hôpital, donc on le fait à la maison, c'est très bien. Après, celui qui va coordonner, c'est le médecin, mais celui qui a les données, c'est Apple. Apple, c'est pas un philanthrope, il fait du business, il fait quoi de ses données? C'est toujours, on se rend compte.
Mais
que...
si l'hôpital devait créer des montres, on n'y serait toujours pas.
Non, mais c'est pas non plus un acteur privé, disons. C'est pas comme les grands labos pharmaceutiques qui sont spécialisés dans la santé, c'est le cœur de leur métier. Là où Victor a tout à fait raison, c'est que c'est pas le cœur du métier d'Apple, ça peut le devenir, mais Apple a un cœur de métier qui finit par envahir toutes nos vies.
Et même les laboratoires pharmaceutiques, on se rend compte que parfois, on est sur du business et que parfois, ils ont des orientations qui vont favoriser leur business plus que la santé. Donc Apple, moi, j'ai pas d'a priori sur Apple. C'est un acteur qui est intéressant, qui fait avancer les choses, mais qui n'est pas un acteur de santé.
Donc, premier problème, Apple. Deuxième problème,
c'est que
l'interprétation des résultats,
déjà,
quand même.
On se transforme, mais on le voit aujourd'hui, on se transforme tous en médecins en puissance. On a nos capteurs partout. Moi, je dis, est-ce qu'il y a un moment, on est tous des malades en puissance? C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, si on fait des dépistages de certaines maladies d'une certaine façon, à certains âges, dans certains contextes, c'est parce qu'il y a un moment où on se dit, là, les conditions sont réunies pour mettre en place une prévention, à d'autres moments, non. Là, on va tous se retrouver à regarder notre glycémie à longueur de journée. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce que c'est forcément si pertinent? Parce que quand on l'a vu par le passé, quand on se met à dépister beaucoup, quand on a des outils qui sont très précis, on l'a vu dans des dépistages de certains cancers, on pouvait dépister très précocement des tumeurs et on se rendait compte que finalement ces tumeurs-là n'auraient pas évolué et les gens seraient morts avec leurs tumeurs, si je puis dire d'autres choses. Là, la question se pose aussi. On a des paramètres qu'on peut évaluer, mais on en fait quoi après? Et qu'est-ce qu'on peut en dire au final? C'est une vraie question, je crois.
Et est-ce qu'on a le droit d'aller voir son médecin en disant, alors moi, quand j'ai touché mon téléphone, moi j'avais un téléphone...
Tu regardais mon heure.
Moi, par exemple, là, je peux mettre mon doigt et mon téléphone me dit quel est mon rythme cardiaque. Bon, je suis pas en train de critiquer les compétences de mon téléphone, mais en l'occurrence, je peux avoir du 135 et parfois du 62. Est-ce que j'ai le droit d'aller voir un médecin en disant ça? Est-ce que c'est pertinent d'aller... C'est une question que je me pose.
Question au docteur Damien Mascret. Problème l'interprétation des résultats.
Oui, c'est vrai que c'est un problème énorme parce que derrière se pose le problème de la responsabilité, c'est-à-dire que les médecins l'ont pointé du doigt tout de suite. Hein. On dit, attendez, c'est bien gentil ce système, mais si le patient reçoit un message qui dit, attention, vous devez aller voir votre médecin parce que le dimanche son rythme cardiaque s'est accéléré, quelle responsabilité derrière? Qui est responsable? Apple va dire, ou d'autres vont dire, bah ça y est, nous on a signalé qu'il fallait le faire, mais encore faut-il le faire? Et si la personne ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Donc et derrière, effectivement, est-ce que l'information, l'alerte était pertinente ou pas? Bah là, tout l'art médical évidemment va entrer en jeu, mais il y a vraiment un risque énorme parce que eux ne se posent pas la question de est-ce que cette détection, ce dépistage est utile médicalement, mais il se pose la question, est-ce que ce dépistage ou ce gadget est vendable, tout simplement?
Je pense qu'on pourra régler ce problème-là si c'est le médecin qui coordonne. Le médecin va dire, vous monsieur, vous madame, j'ai besoin de savoir, vous avez 65 ans, vous avez tel ou tel facteur de risque. On va regarder votre situation, donc je vais vous donner une montre, je vais vous donner un équipement, puis on se revoit dans un mois. S'il y a un souci, vous me prévenez parce que vous êtes à risque. Et un jeune homme en pleine forme, sportif, de 25 ans, on ne lui proposera pas la montre. Et alors après, on pourra peut-être pas l'empêcher de l'acheter, c'est ça le problème. Mais en tout cas, le médecin dira, pour certaines personnes, on y va, et peut-être avec l'assurance maladie qui pourra, dans ces cas-là, prendre en charge des choses, des nouveaux dispositifs médicaux, des nano-dispositifs médicaux, pourquoi pas. Et pour d'autres, on leur dira, non, vous n'êtes pas à risque, donc n'allez pas là-dedans, parce qu'il n'y a pas de nécessité.
Nous sommes en direct, 19h48, sur France Culture, dans Soft Power, on parle de santé et de numérique, les deux mots étant désormais de plus en plus facilement accouplés, si on peut dire. Nous sommes avec Damien Mascret, médecin, journaliste au Figaro, et Victoire Ensondé, journaliste santé et consommation chroniqueuse à France 5, ainsi que Zoé Sfez. Terminons peut-être cette émission par trois questions de prospective. L'intelligence artificielle, les robots chirurgiens, pour commencer, et là c'est presque déjà en place, le Health Data Hub, ça s'appelle comme ça même en français, qui devrait être mis en place, ce sera le début bien sûr en fin 2019. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, a annoncé la mise en place de ce hub, donc des données de santé. Cette initiative doit permettre de faire de la France un leader, je la cite, dans l'utilisation des données de santé au service du bien commun, dans le respect du droit des patients et en totale transparence avec la société civile. Vous avez vu les mots transparence, respect, bien commun, etc. Docteur Damien Mascret, peut-être une... Qu'est-ce que doit-on attendre? Que doit-on attendre de ce Health Data Hub qui porte le l'acronyme merveilleux de HDH?
Ben voilà, oui. Alors il aura peut-être un nom d'ici là, on va peut-être le baptiser.
D'un nom français peut-être.
Oui, par exemple, c'est vrai que je parlais de changement de philosophie, je pense que c'est important que l'État ait compris qu'il devait effectivement soutenir des initiatives, qu'il avait un rôle à jouer évident dans la protection des données des utilisateurs, il avait un crédit de confiance en tout cas en la matière évident, mais qu'il devait aussi être ouvert sur les créateurs, les investisseurs, le business, quoi. Parce que c'est pas effectivement l'assurance maladie qui va développer une montre, qui va développer un système de prise de rendez-vous. D'abord parce que la technologie évolue très vite et qu'il faut la suivre, et que les seuls qui peuvent faire ça, suivre la technologie, c'est ceux qui ont un intérêt.
Le marché, etc.
Donc, ils font un intérêt financier. Donc certes, qu'il y ait un intérêt financier à développer, c'est très bien, mais qu'ensuite la main soit vraiment à l'État, ça me paraît vraiment fondamental en matière de santé. La santé n'est pas un produit comme un autre. Les gens pensent être propriétaires, par exemple, de leurs données de santé. Ça n'est pas le cas, effectivement. Ouais. La ministre l'a rappelé et les juristes pourraient le dire. C'est une donnée qui est aussi un bien collectif, la donnée de santé. Et c'est vrai que c'est la grosse différence de philosophie qui explique qu'Apple et autres comprennent parfois mal les Français. C'est que pour eux, c'est évident qu'un Américain peut vendre ses données de santé. Et quand on leur dit un Français n'a pas le droit, c'est même pas s'il veut, il peut. Il n'a pas le droit de vendre ses données de santé.
C'est notre philosophie. Ouais. Alors, autre sujet, les robots chirurgiens. Alors là, on rentre presque dans la prospective, mais pas tant que ça. C'est au fond, comment pourrait-on dire, de l'humain augmenté, d'une certaine manière.
Ah ben, il y en a déjà. On a le fameux Da Vinci, qui est un robot, je fais de la pub parce que c'est le seul sur le marché, évidemment, pour l'instant, mais quand même depuis un bon moment, qui avait été développé initialement dans les années 80 par l'armée américaine et les systèmes de santé américains, qui s'était dit, ça coûte trop cher de former un chirurgien et de l'envoyer en première ligne pour qu'il se bombarder, donc que le robot aille en première ligne et que le chirurgien soit derrière à manipuler les bras. Bon, il s'avère que les armées américaines et les systèmes de santé américains ont abandonné l'idée, mais les brevets ont été repris par des ingénieurs du MIT qui ont développé une start-up californienne à la fin des années 90, qui marche très bien, merci Poix, je crois qu'ils ont une capitalisation de 65 milliards actuellement, mais quand même, qui a un petit problème, c'est qu'ils ont réussi à convaincre pas mal de chirurgiens, ils ont vendu 4500 robots qui sont allés au bas mot autour d'1 million d'euros le robot chirurgical, mais ils n'ont pas convaincu les systèmes de santé que c'était vraiment un avantage pour le patient, un avantage pour le chirurgien pour opérer plus de confort, etc. Il y aurait probablement des avantages avec moins de complications opératoires, moins de risques, une meilleure visualisation, bref, des tas de choses qui facilitent. Mais on n'a pas encore confirmé par des études qu'il y avait vraiment un bénéfice pour le patient. Il y a même certaines études qui ont été un petit peu inquiétantes parfois. Donc, c'est probablement un atout, un avantage.
C'est l'idée, au fond, que la précision sera peut-être meilleure d'un robot dans la salle opératoire qu'un chirurgien. Mais ça doit se faire en copilote, au fond. C'est pas le robot qui se met à décider tout seul.
D'accord, il a des manettes. Le chirurgien, il a des manettes.
Voilà. Si vous devez tourner derrière une prostate et aller passer derrière un ovaire, c'est plus facile avec les manettes de diriger votre petit robot, enfin, les outils, les instruments chirurgicaux comme ça, que de le faire à la main, à l'ancienne, si on peut dire, en ouvrant une grande ouverture, ça paraît plus facile.
Victoire Ensondé, sur
ce sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, on est tous persuadés que le robot va remplacer l'homme, et là, on se rend compte que finalement, les études montrent que pour l'instant, c'est pas forcément probant que, en tout cas, dans ces applications-là, le robot fait mieux. C'est intéressant. Après, sans être, faut pas être arrière-gardiste. Hein. Il y a un moment, je pense que les robots en santé, sur le plan chirurgical, ils vont apporter des choses. Ah bah. Mais ça va.
De toute façon, les technologies ne sont jamais ni bonnes ni mauvaises en soi. Non. Ça va dépendre de ce qu'on en fait. Pour terminer cette émission, il nous reste 3 minutes dans cette première partie. Un mot sur l'IA, l'intelligence artificielle. Vous publiez d'ailleurs, Damien Mascret, un article demain dans le Figaro sur cette question. Je l'ai lu en avant-première. Alors, je sais ce qu'il y a dedans, mais vous allez nous expliquer. Évolution stupéfiante. Hein. Vous écrivez notamment pour la lecture, notamment des radios, avec l'idée, et là je cite Ian Lukin, dont on reparlera tout à l'heure de Facebook, dans la Harvard Business Review, il dit « l'IA va nous sauver la vie ».
Oui, alors c'est évident que pour la lecture des images, c'est un confort incroyable. Vous avez, quand vous faites un scanner de la tête aux pieds, maintenant avec la technologie, on fait ça en 4 secondes, mais en 4 secondes, vous obtenez 1600 coupes, 1600 clichés.
1600 images, donc la personne humaine ne peut plus les lire, elle n'a pas le temps.
Alors elle peut, bah, les
1600, ça lui prend la journée.
Ils ne vont pas tout lire, ils vont regarder les zones, ils ont une habitude. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, là, est vraiment un copilote parce que peut leur dire, attention, là, j'ai vu une image qui, d'après mes bases de données, me dit qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Et ensuite,
Elle identifie les signaux faibles, ouais. Elle l'identifie notamment.
Elle peut identifier des signaux faibles, elle a une résolution qui est incroyable, elle est infatigable, évidemment. Elle peut dire aussi le lendemain au radiologue, attention, celle-là, faut les regarder en premier, ces images, parce qu'il y a vraiment des trucs bizarres dessus. Et puis, c'est vrai que, quelque part, on laisse encore la responsabilité à l'humain, parce que l'intelligence artificielle ne veut pas forcément avoir la responsabilité. Et d'ailleurs, vous avez vu peut-être que c'est le Comité national d'éthique, dans son rapport sur la partie intelligence artificielle, insiste beaucoup sur l'idée d'une garantie humaine. Il voudrait que dans la loi, on intègre ce principe d'une garantie humaine, c'est-à-dire que la décision, qu'on soit dans un avion ou dans une salle d'opération, la décision repose dans
puis
les mains de l'homme.
De toute façon, c'est l'humain qui programme et qui apprend à la machine. Elle apprend pas toute seule. Donc, de toute
façon, c'est un gros biais parce qu'effectivement, si on lui a mal appris, on l'a vu avec des chatbots notamment, si on lui a mal appris, et ben le résultat peut être catastrophique.
Zoé. Oui, il y avait cette étude l'année dernière dans Annals of Oncology sur cette intelligence artificielle qui détectait mieux des carcinomes, cette fameuse différence de lésion entre un grain de beauté et un début de cancer. Et l'intelligence artificielle était pour la première fois meilleure que 50 un dermatologue, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était juste avec à l'œil nu. Les dermatologues, quand ils avaient les contextes du patient, étaient restés meilleurs que la machine. Et ça fait partie des choses qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que c'est effectivement ça une question de priorisation, mais à aucun moment il n'est question aujourd'hui de vous envoyer voir juste une intelligence artificielle qui décidera toute seule si vous avez ou non un cancer.
La garantie humaine.
Terminer victoire, entendez.
Je crois que c'est ça, la garantie humaine. Je pense que les technologies elles avancent et c'est très bien, mais je pense que la garantie humaine, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Derrière, il faut une garantie humaine.
Donc c'est pas la fin des radiologues par les machines, Damien Mascret. Ni les médecins. Vous avez encore un avenir en tant que médecin.
Ils vont avoir quand même besoin de bien comprendre le langage des machines, ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles savent faire.
Donc il y a un problème de formation, il va y avoir un problème aussi de coût pour tout ça, bien sûr.
Ah oui, alors le coût là aussi, c'est vrai que c'est un petit peu la boîte noire parce qu'on nous présente toujours des belles études qui montrent qu'on fait des économies grâce à ça.
Il faut quand même acheter les machines
les mettre à jour. L'investissement, la mise à jour, etc. Donc le bénéfice, il est beau sur le papier. Dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Et l'humain, de toute façon, déjoue souvent les plans les mieux établis parce que l'humain est variable et que c'est pas un plan de montage d'une voiture ni d'un avion, c'est un peu plus compliqué.
Comme je le disais en début d'émission, on voit donc que les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais aussi l'ensemble des startups et l'économie numérique est en train de s'intéresser à la santé, depuis d'ailleurs déjà un certain moment. La nouvelle frontière du numérique, c'est la santé, titré donc Time Magazine il y a quelques semaines. On reviendra dans Soft Power sur ces sujets dans d'autres émissions, puisqu'on essaye de suivre ces questions liées au numérique dans tous les aspects, puisque le numérique atteint tous les aspects de la vie humaine. Merci infiniment à Damien Mascret, médecin, journaliste au Figaro. Merci à Victoire Nsondé, journaliste santé et consommation, chroniqueuse à France 5. Dans un instant, la seconde partie de Soft Power. À 20h10, le Club de la Presse Numérique, nous parlerons justement des Français stars de l'intelligence artificielle, dont le Français Ian Lekun, qui a reçu le prestigieux prix Turing et que je citais tout à l'heure. Il a reçu ce mercredi pour son travail précisément et justement sur l'intelligence artificielle. Et nous serons pour parler de ces sujets avec Emmanuel Paquet de L'Express et Gilles Fontaine de Challenge. Et dans un instant, Zoé Sfez à 20h, votre invité innovation.
Pierre Mounier, avec qui on va se demander ce que le numérique fait aux sciences humaines et aux sciences sociales. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les humanités numériques ».
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone. Tout ça à suivre après un classique de Florence and the Machine, qui était en concert dimanche dernier à Paris, sur France Culture. Another conversation.
conversation with no destination, another battle never won. Each side is a loser, so who cares who fired the gun? And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning. Letting loss reveal it. Letting loss reveal it. Patron saint of the lost causes. We were lost before she started. We lay in bed as she whipped around us. Maybe I've always been more comfortable in chaos. And I was on the island and you were there too. But somehow through the storm I couldn't get to you, Saint Jude. Somehow she knew.
À l'instant, un titre classique de Florence and the Machine qui était à Paris-Bercy dimanche dernier pour un concert à la fois magique et poétique. La veille, la chanteuse a tenu à rendre hommage, écoutez bien, à Rimbaud. Une story qu'elle a postée sur Instagram. Elle est allée voir un certain nombre de monuments dédiés à Rimbaud. Le symbole est important. Florence Welch se positionne dans la lignée d'un Bob Dylan ou d'une Patti Smith pour être une musicienne poétesse. Et d'ailleurs, durant le concert de Paris, elle a évoqué la poésie, notamment à travers Patti Smith, elle-même fan numéro un de Rimbaud, à laquelle elle a rendu hommage. Plus politique, l'anglaise a critiqué le Brexit et s'est dit européenne. Florence and the Machine sur France Culture, 20h précisément.
France Culture, soft power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Pierre Mounier.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes ici parce que vous publiez un livre aux presses de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme dans la collection Intervention. Cet ouvrage s'appelle Humanité numérique. Vous-même, vous êtes ingénieur de recherche à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, et directeur adjoint d'Open Edition. C'est quoi un ingénieur de recherche d'abord? Question extrêmement idiote.
Un ingénieur de recherche, c'est un de ces nombreux personnels qui soutiennent, aident et facilitent le travail des chercheurs par tout un tas de moyens, que ce soit en documentation, par la mobilisation des technologies informatiques ou numériques, dont on en reparlera, mais aussi d'un point de vue administratif, en organisant le travail des chercheurs. Donc pour un chercheur qui est sur le devant de la scène, vous avez une foule de personnels qui sont tout autour et qui rendent possible son travail.
Alors justement, c'est très intéressant parce que vous signez ce livre, Les Humanités Numériques, qu'on pourrait sous-titrer « Qu'est-ce que le numérique fait aux sciences humaines, aux sciences sociales, aux sciences humaines ?» Ça fait partie des questions que vous vous posez. Ce terme d'humanité numérique, en fait, il est assez récent. Et d'ailleurs, depuis qu'il a été, disons, inventé, vous y revenez, vous dites qu'il est assez récent, mais qu'en réalité, il recouvre des réalités et une question, des interrogations qui sont bien plus anciennes. Il est apparu en 2008, ce terme ?
Alors le terme de alors on est dans un milieu qui est fortement dominé par les pays anglophones, Royaume-Uni et États-Unis. Donc le terme original, c'est Digital Humanities, qui effectivement est apparu en 2008, mais il a été précédé par bien d'autres appellations comme Humanities Computing, qu'on pourrait appeler humanité computationnelle si vous voulez, et même encore avant Literary and Linguistic Computing. Et en fait, quand on fait un peu l'histoire, ce que j'essaye de faire, une histoire critique en tout cas de ce champ d'activité, on se rend compte que ses origines sont très très anciennes et sont bien antérieures à 2008, puisqu'elles commencent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire quasiment au même moment où l'informatique elle-même naît.
Et alors, c'est incroyable parce que le protagoniste de l'émergence de cette idée est une personnalité extrêmement originale, et c'est une rencontre, disons, entre deux personnalités. C'est Roberto Busa, qui est un religieux jésuite, qui s'intéresse à saint Thomas d'Aquin et qui va vivre une grande aventure humaine et scientifique avec un cadre d'IBM. Est-ce que vous pouvez nous parler exactement de, disons, cet épisode originel des humanités numériques ?
Original et originel. Mmh. Roberto Bussa est un père jésuite qui a effectué sa thèse de théologie sur la somme théologique de Thomas d'Aquin. Mmh. Et sa thèse, il l'a effectuée en établissant un index ou un concordancier, si vous voulez, du vocabulaire de l'incarnation dans l'œuvre de Thomas d'Aquin. Mmh. Et il a travaillé sur un mot, c'est-à-dire la préposition « in » en latin. Et il lui a fallu toute sa thèse pour travailler sur ce seul mot. Et lorsqu'il a voulu étendre son champ de recherche à tous les mots de la somme théologique, évidemment, il s'est rendu compte qu'il était dépassé, qu'il avait besoin de moyens mécaniques à l'époque, et donc plus tard électroniques, c'est-à-dire de l'ordinateur, pour effectuer cette concordance et cet index. Donc il est parti aux États-Unis. Comme c'est un père jésuite, il y a un réseau d'universités jésuites aux États-Unis par lesquelles il est passé pour essayer de trouver de l'aide. Il a fini par aboutir au MIT, qu'il a adressé au chef d'une entreprise qui était en pleine croissance à l'époque, et qui IBM. Est IBM. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, voilà.
Qu'est-ce que ça produit, cette collaboration entre ces deux hommes, qui marque finalement, disons, une forme d'étalon de collaboration, et qui marque aussi l'étalon, enfin en tout cas qui marque le début d'entreprises privées, comme ça, digitales, qui s'intéressent, et c'est toute la question, vous soulevez cette question dans le livre, qui s'intéressent et parfois pas à cette question du lien entre le digital et ce qu'on appelle en France les sciences humaines, les sciences sociales, avec la particularité académique aussi de ces sciences. Quel est l'intérêt pour une entreprise d'investir sur ce type de questions?
Alors ça, c'est la grande question, en effet. En fait, la rencontre entre Thomas Watson, qui était PDG d'IBM, et Roberto Bussa à l'époque, pose un certain nombre de questions. La première, qu'il faut pas oublier, c'est lorsque Roberto Bussa revient en Italie et commence à numériser, en quelque sorte, c'est-à-dire à encoder par machine à carte perforée l'ensemble de l'œuvre de Thomas d'Aquin, la question qui se pose, c'est en quoi est-ce que ça transforme le travail du chercheur en humanité ou en sciences humaines? Mmh. Et ça le transforme assez radicalement en l'industrialisant. C'est ce que j'essaie de montrer dans le livre. La deuxième question, qui est aussi très intéressante, c'est mais pourquoi diable Thomas Watson est intéressé à soutenir
la recherche sur Saint Thomas d'Aquin, voilà, d'un père jésuite.
Alors qu'au même moment, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, IBM est en plein dans des développements informatiques pour guider les missiles balistiques de l'armée américaine, en pleine guerre froide. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un historien américain qui a fait cette recherche et qui a publié un livre récemment sur le sujet. Là, la chose assez intéressante, c'est que Thomas Watson a cette idée géniale, à l'époque, que l'informatique va pouvoir s'appliquer à tous les domaines de la vie quotidienne, alors que jusqu'à présent, elle était cantonnée, était confinée aux affaires militaires et à l'organisation administrative de la production industrielle dans l'industrie, en quelque sorte. Et là, il y a cette idée que on va pouvoir encoder l'information et que les machines, ces nouvelles machines que sont les ordinateurs, vont pouvoir être utilisées absolument partout.
C'est-à-dire non seulement... qui va effectivement de soi aujourd'hui, mais qui n'allait pas du tout de soi à l'époque. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a de très très bons entretiens avec Tim Berners-Lee, qui fait aussi partie des gens qui ont pensé ces choses-là. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que là, on est sur cet épisode, disons, originel et original. Ensuite, il y a, disons, quelques grands jalons dans cette histoire des humanités numériques. Il y a aussi, évidemment, des centres qui se créent en marge, souvent, des universités, c'est-à-dire rarement rattachés aux ce qu'on appelle les unités de recherche, soit d'histoire, soit de sciences politiques, etc., presque en autonomie. Il y a quelques faits d'armes, il y a ce fameux article de Science sur The Republic of Letters. Est-ce que vous pouvez me parler de cet article et peut-être des débats théoriques qu'occasionnent des grands morceaux de bravoure comme cela, qui mettent en exergue la manière dont le numérique s'invite dans ce champ des sciences, que sont les sciences humaines?
Alors, l'article de Science ne porte pas sur la numérisation, sur le projet Republic of Letters, mais il porte sur Google Book et Google and Gram Viewer. Vous savez que Google a numérisé un corpus immense de livres venant des bibliothèques nord-américaines pour l'essentiel, mais aussi européennes. Et avec l'aide d'un certain nombre de chercheurs, essentiellement mathématiciens, ils ont développé un petit outil qui s'appelle Google and Gram Viewer, qui permet de mesurer et de visualiser par des graphes l'évolution du nombre d'occurrences des mots dans ces livres par période historique, en quelque sorte. Alors les débats théoriques donc qui émergent de ce petit outil, l'utilisation de cet outil, c'est tout simplement la question de savoir si on va pouvoir déduire des lois de la culture et des lois de l'évolution culturelle à partir de l'évolution de la fréquence des mots dans ce corpus.
Ce qui est quand même un changement fondamental, on va dire un changement de paradigme dans ce champ très particulier qui est celui des sciences humaines.
Oui, mais c'est une vieille promesse, ça. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les sciences sociales, en particulier dès leur naissance et dès leur constitution,
l'objet critique aussi,
ont eu cette idée de créer ou de déduire ou de trouver des lois des sociétés comme on a pu déduire des lois de la nature.
Objectives presque et mathématiques.
Voilà, c'est ça, objectives et mathématiques. Et là, ça crée tout un tas de problèmes et il y a tout un tas de contestations en fait sur la capacité à concevoir la notion de loi de la culture.
Et en l'occurrence, vous parlez par exemple de l'existence de l'occurrence Chagall dans la littérature, enfin dans la littérature et dans le retour de ce mot dans la production allemande, alors que Chagall est un peintre juif. Est-ce que c'est parce qu'il est juif qu'il n'est pas là? Est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas? Donc la question de l'interprétation reste clé dans tous les cas.
Voilà, c'est ça. Alors, on sait que effectivement, Chagall disparaît de la littérature allemande, enfin du corpus de langue allemande pendant la Seconde Guerre mondiale et à partir des années 30, à cause de la politique culturelle nazie. Effectivement, on le sait. Mais en fait, on ne peut pas le déduire de la seule disparition du terme Chagall.
C'est parce qu'on sait qu'il y a eu un régime nazi qui l'a visé les Juifs et que Chagall l'est.
Et donc, c'est une confirmation supplémentaire où ça fait apparaître quelque chose d'intéressant, mais qui fait que l'on ne peut pas se passer en réalité des méthodes classique et traditionnel des recherches en humanité, en histoire en l'occurrence. Et donc c'est là que c'est intéressant, parce que cela montre que les humanités numériques doivent mobiliser effectivement des moyens informatiques et des technologies numériques au cœur de la recherche elle-même, mais ne peuvent pas se passer des méthodes traditionnelles et des méthodes classiques et des savoirs classiques en humanité.
Nous sommes en 2019, quasiment un peu plus de 10 ans après l'apparition, on va dire, de ce terme. Quels sont aujourd'hui les défis majeurs pour vous auxquels sont confrontés à la fois les chercheurs, à la fois les scientifiques, et surtout particulièrement en France, où on a un monde académique assez particulier à cet endroit-là?
Alors, il y a tout un tas de défis qui se posent. Je pense que un des défis majeurs, si vous voulez, qui se pose en France comme dans d'autres pays, c'est que nous sommes dans un contexte social, si vous voulez, et culturel, qui est dominé par les sciences et les techniques, et que aujourd'hui les humanités sont plus ou moins décriées, elles sont en
perte de vitesse, de financement aussi,
de financement absolument. Alors pour beaucoup, les humanités numériques, c'est-à-dire la mobilisation de technologies numériques au cœur des humanités, permettrait
de les sauver.
Voilà, de les sauver, mais c'est au prix d'un certain nombre d'ambiguïtés et de contradictions qu'il s'agit maintenant d'expliciter et de débattre.
Notamment, évidemment, la présence d'acteurs, on va dire, issus du domaine privé ou avec une culture qui vient de l'industriel. Des débats que vous soulevez, je recommande ce livre, donc, Les Humanités Numériques, Pierre Mounier, c'est paru aux éditions Fondation Maison des Sciences de l'Homme dans la collection Intervention. Merci beaucoup à vous d'avoir été notre invité.
Merci.
Merci Pierre Mounier et Zoé Sfez.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h11, le club de la presse numérique, Les Français stars de l'intelligence artificielle. C'est le titre de ce club de la presse numérique ce dimanche en direct dans Soft Power sur France Culture. Cette semaine a été décerné le prix Turing, un prix créé en 1966 qui récompense des personnalités ayant réalisé des innovations majeures dans le domaine des sciences informatiques. Il est souvent ce prix comparé au prix Nobel, mais pour donc le numérique. Il récompense cette semaine 3 chercheurs pour leurs travaux sur les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond, dont le français Yann Le Quin qui travaille chez Facebook. Ce soir, on revient donc sur leurs travaux et sur ce prix avec Gilles Fontaine de Challenge et Emmanuel Paquette de L'Express. Pour commencer, que sait-on, Emmanuel, des travaux qui ont été récompensés de ces 3 chercheurs, Yann Le Quin donc, mais aussi Geoffrey Hinton et Yasua Benjo?
Il faut savoir que ces 3 personnalités-là, déjà, 1, se connaissent, 2, ont travaillé ensemble, et ont travaillé ensemble sur l'intelligence artificielle.
La construction des réseaux neuronaux.
Voilà, exactement. Alors, c'est une technologie qui existe maintenant depuis les années 60, qui a eu un développement dans les années 70-80, et qui a eu après, qui est, per- qui est, qui est perdu, qui a perdu un peu son lustre lorsqu'en fait un livre est paru et qui a détruit en fait ces technologies, disant qu'elles ne pouvaient aboutir à aucun cas concret. Mais ces trois-là ont continué tout de même à se pencher sur les réseaux neuronaux. Les réseaux de neurones, c'est en informatique, c'est des systèmes qui tente à copier un cerveau humain avec différents niveaux informatiques qui communiquent entre eux. Donc je dis tente bien parce que ça ne représente pas, ce n'est pas une représentation du cerveau humain, même si ça tente de le faire. L'idée derrière, c'est de dire qu'une machine avec des algorithmes peuvent apprendre par elle-même, avoir une forme d'apprentissage si on les entraîne suffisamment avec une capacité de calcul importante et suffisamment de données pour nourrir ces machines et faire évoluer en fait leur système. À force de les entraîner.
Gilles Fontaine.
Alors je vais être un petit peu peut-être provocateur, mais je vais revenir sur la définition d'intelligence artificielle parce que c'est un petit peu la polémique qui monte justement. On en parle depuis quelques années et en France notamment parce que on a vu ces grands groupes dont Facebook qui a confié le développement de son laboratoire de recherche artificielle à Yann LeCun, un Français. Google a créé son labo également à Paris. Samsung a recruté un Français, Luc Julia, comme là aussi le patron de ces recherches sur la recherche artificielle. Et beaucoup de chercheurs aujourd'hui disent l'intelligence artificielle n'existe pas en réalité. Et avec quelques exemples que je trouve assez amusants, qu'est-ce que les machines feront de plus ou de mieux que l'homme? Alors on peut reprendre... Luc Julia a écrit un livre que je trouve très intéressant là-dessus. D'ailleurs, il a intitulé son livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Il fait remonter cette intelligence artificielle-là à Blaise Pascal et à sa fameuse Pascaline qui permettait surtout de... Enfin, essentiellement, même exclusivement, de faire des additions, des soustractions. Si je vous demande d'additionner des chiffres 1332 plus 524, voilà, pas de réponse. Donc ça veut dire la calculette aurait déjà trouvé.
C'est parce qu'on est déjà perdu là. On est perdu dans l'exemple avec Pascal. Mais...
Alors si on va un peu plus loin et si on remonte à ce match légendaire entre Kasparov et Deep Blue dans les années 90.
Sur les échecs.
Aussi, dans les échecs, le grand maître s'est fait ratatiner par la machine. Mais là encore, il s'agit de... Les échecs, c'est un jeu fermé avec ses règles. La machine avait emmagasiné tous les jeux d'échecs, 10 puissance 50, je crois. Ça fait beaucoup de coups. Mais ces coups étaient enregistrés dans la machine. Et puis après, il y a eu la machine, le DeepMind, de la machine de Google, qui là, sera un jeu beaucoup plus complexe, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de coups. La machine, une fois encore, a réussi à battre l'homme. Mais cette machine, c'est des milliers de processeurs. C'est une puissance de calcul phénoménale. Ça s'appelle un data center. C'est, j'ai fait mon calcul, 440 kWh pour faire simplement vaincre un grand maître et ne sait faire que ça. Voilà. Et le grand maître d'échecs.
Ce que vous voulez dire, c'est que l'intelligence artificielle, c'est tout simplement des données, quoi.
Voilà,
c'est des big data.
Le cerveau humain, lui, il fonctionne avec 20 watts. Et il sait faire plein d'autres choses que de jouer au jeu de Go. Donc là encore, il faut ramener l'intelligence artificielle à ce qu'elle est. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a mis une couche supplémentaire dans effectivement ces calculateurs qui permettent de trouver très vite une solution à une équation bien précise. C'est effectivement le deep learning, c'est-à-dire des algorithmes qui permettent à la machine de continuer à apprendre toute seule.
Emmanuel Paquette, est-ce que le fait qu'un Français soit parmi ces trois lauréats ferait de la France un des acteurs clés de la recherche en intelligence artificielle ?
Oui, c'est évident, parce que, comme le disait Gilles tout à l'heure, quand on parle des grands laboratoires qui ont pu ouvrir, ceux de Samsung en France par exemple, Uber aussi a décidé d'ouvrir un laboratoire d'intelligence artificielle avec un Français à sa tête à Paris, tout comme Huawei aussi, qui a un laboratoire d'intelligence artificielle à Paris pour les objets connectés, et pareil, c'est un Français qui a sa tête, donc on voit bien qu'il y a un vivier français. Faut savoir aussi que dans les trois lauréats, Joshua Bengio est né à Paris, de parents marocains, et qui, à 12 ans, a quitté Paris pour s'installer à Montréal. Donc on peut dire qu'il est, si on veut être chauvin, à moitié français, donc sur les trois.
C'est la start-up nation de l'intelligence artificielle.
Exactement. Joshua Bengio, d'ailleurs, est le seul des trois aujourd'hui travailler uniquement à l'Université de Montréal, à ne pas avoir cédé aux appels des grands groupes des GAFA avec des chèques monstrueux. Geoffrey Hinton, lui, est à Toronto. Il travaille pour Google chez Google Brain. Il est senior vice president. Comme Yann LeCun, aujourd'hui, est basé à New York en grande partie pour diriger l'ensemble des laboratoires de Facebook à travers le monde. Donc les deux sont chez les GAFA. Joshua Christian Mengio, lui, a choisi de rester dans le domaine universitaire. Et d'ailleurs, prend un peu de distance vis-à-vis de certaines recherches des GAFA, notamment ceux de Google et de Facebook. On en parlera peut-être un peu plus tard dans l'émission. Mais donc, on voit que les parcours sont un peu différents, avec des formations qui sont quasiment les mêmes, c'est-à-dire des grandes universités françaises, donc notamment pour Bengio et notamment, enfin Bengio avant qu'il ne parte pour Montréal, et surtout Yann LeCun, donc parce qu'on a des grandes universités de mathématiques qui aujourd'hui sont à la base de ce qu'on appelle les réseaux de neurones et donc l'apprentissage profond des machines.
Sur cette question, Gilles Fontaine.
Qu'est-ce qui fait la spécificité française en matière de recherche sur l'intelligence artificielle? D'abord, on parle aujourd'hui de data scientist, comme ces spécialistes de l'IA, c'est-à-dire des gens capables de trouver ou de concevoir plutôt des algorithmes qui vont interpréter des montagnes de données. Et effectivement, en faire quelque chose d'assez intelligible. À la base, ces gens-là, les data scientists, autrefois, on les appelait des statisticiens. C'était un petit peu moins sexy, mais c'est la réalité. La spécificité française, elle vient du fait qu'on a de grandes écoles d'ingénieurs, des gens qui sont très très bien formés, notamment dans les sciences mathématiques, parce que c'est avant tout des sciences mathématiques, et que en France, on est beaucoup plus sur la recherche fondamentale que sur la recherche appliquée. C'est-à-dire que les chercheurs français, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis notamment, les chercheurs français restent beaucoup plus dans leur labo, enfin en tout cas dans la recherche, qu'aux États-Unis. Donc on va un peu plus loin. C'est d'ailleurs un grand problème dans des universités comme Stanford en Californie, l'université de la Silicon Valley, où on déplore justement le fait que beaucoup d'étudiants quittent leurs études trop tôt, certains au bout de 2 ans, même sans leur diplôme, pour rejoindre des grandes startups de la Silicon Valley, et qu'on a un petit peu mis de côté la recherche fondamentale.
Emmanuel Paquette, quelles sont les applications de ces recherches, que ce soit des réseaux neuronaux ou l'apprentissage profond, la voiture connectée, la reconnaissance d'image, de langage, etc.
C'est la raison pour laquelle ces trois lauréats ont gagné le prix. C'est simplement qu'aujourd'hui, dans tous les smartphones, quasiment tous les smartphones qu'on peut avoir dans nos poches, sont équipés d'intelligence artificielle, que ce soit pour les systèmes de reconnaissance vocale, les assistants personnels, hein, que ce soit Siri pour Apple, que ce soit Google qui a le sien. Donc aujourd'hui, les grands opérateurs d'Internet ont développé leur système de reconnaissance vocale. Derrière, il y a les systèmes de reconnaissance faciale qui sont également extrêmement développés. Alors ça peut être dans la sécurité intérieure, ça peut être, comme on a pu le voir en Chine, pour des systèmes de notation des citoyens en fonction du comportement que vous pouvez avoir en tant que piéton, par exemple, hein, puisqu'il y a eu cette histoire que vous avez dû tous voir, hein, d'une femme qui n'a jamais traversé la route et qui s'est vue verbaliser tout simplement parce que sa photo était sur le flanc d'un bus. Et donc l'intelligence artificielle a considéré qu'elle avait violé ses droits de piéton et donc elle a été verbalisée. C'était une femme connue pour le coup. Donc on voit aussi les erreurs de l'intelligence artificielle, pour revenir à ce que disait Gilles.
Mais ça, on peut penser que ça va un peu trouver des solutions.
Alors c'est ce que dit l'État chinois justement. Donc,
donc je suis le porte-parole ce soir.
Mais effectivement, on peut se dire que les biais des algorithmes vont s'améliorer avec les erreurs qui peut y avoir.
Sur le langage, par exemple, où on dit que, enfin, il y a déjà de nouveaux processus en place, on trouvera une solution pour traduire de manière assez parfaite.
Aujourd'hui, il y a déjà des systèmes. Skype intègre un système de traduction automatique vocale. Donc, un Chinois pourrait s'exprimer avec un Français avec une traduction automatique. Alors, ça marche pas encore très très bien. Ça repasse généralement par du texte. Comme Google Traduction, Google Translate, qui est aujourd'hui aussi de l'intelligence artificielle. Donc on voit que les sphères de l'intelligence artificielle sont très, très, vont très très loin. Ça peut aller aussi sur de la médecine, pour de la reconnaissance de tumeurs sur la radiographie, puisqu'aujourd'hui c'est un des cas les plus avancés très probablement en termes d'intelligence artificielle. Donc on voit l'implication, elle est très très large, sachant que les trois lauréats aussi, notamment l'un d'entre eux, donc Shuai Bengio, a signé aussi récemment une charte pour éviter à ce que l'armée n'utilise l'intelligence artificielle, notamment pour les robots autonomes, et que des robots autonomes aient la possibilité de pouvoir prendre des décisions en direct et donc tuer des gens sans qu'il y ait une décision humaine derrière.
Zoé Sfez.
Non, mais sur cette question de l'intelligence artificielle et de la recherche fondamentale et de en termes de compétences en France, c'est intéressant aussi de noter que la science va très vite. On a très peu, on parlait à l'instant avec Pierre Mounier du rôle des sciences sociales, la recherche théorique avance moins vite que la recherche fondamentale et en mathématiques appliquées. Et la France pourrait faire partie des pays où il pourrait y avoir ce type de réflexion.
Gilles Fontaine ?
Oui, parce qu'il y a en plus une réflexion sur la multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, on se dit, il ne faut surtout pas laisser des matières aussi sérieuses uniquement entre des mains d'ingénieurs et d'algorithmes. Parce que sinon, on va droit à la catastrophe. Il faut embarquer des sociologues, des anthropologues, faire en sorte que on puisse donner, que ça profite à l'espèce humaine, en gros, à la fin de la journée, comme disent les Américains. Moi, sur l'interprétation des données, je suis quand même relativement moins optimiste qu'Emmanuel Paquette effectivement l'aptitude des machines à bien interpréter, à bien comprendre ce qu'elles voient et ce qu'elles doivent éventuellement en déduire. On prend juste Zoé l'image du petit chat que la machine va reconnaître. Il faut qu'elle voit en moyenne une centaine de milliers de chats avant de comprendre ce que c'est qu'un chat et de pouvoir le reconnaître instantanément. Un être humain, on peut dire qu'un enfant
de 3 ans,
il suffit qu'il voit deux chats pour comprendre ce que c'est qu'un chat.
Et puis la question des biais qui a toujours été importante dans la question des algorithmes et sur les intelligences artificielles est cruciale. C'est-à-dire, comme on est vraiment sur de l'apprentissage et de l'apprentissage profond, les biais, même si on ne les a pas pensés, existent et c'est un des enjeux mais énormes de ces technologies de manière générale. Et sur lesquels il y a énormément de critiques aujourd'hui, des sociologues qui travaillent dessus, il n'y a pas encore de véritable pensée. Mmh.
Si on prend l'exemple de Geoffrey Hinton, donc l'un des lauréats du prix qui a été attribué, il travaille chez Google qui finance intégralement justement la dotation de 1 million de dollars qui accompagne ce prix Turing. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement un conflit d'intérêts ? Question ouverte, Emmanuel Paquette.
Alors, on pourrait tenter de voir un conflit d'intérêts. Il se trouve que quand même en 2012, c'est Geoffrey Hinton qui a remporté un prix. C'était le prix ImageNet. C'est ce qui a relancé les réseaux de neurones et l'apprentissage profond comme étant une technologie forte pour le développement d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, à la suite de ce prix, Google a décidé de racheter sa société en 2013. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Geoffrey Hinton travaille pour Google et travaille chez Google. Donc on voit bien que s'il n'avait pas rapporté ce prix-là et que ce prix-là avait été la base après de tous les développements qu'on a vu en intelligence artificielle ces derniers temps, on n'en serait pas là. Donc de ce point de vue-là, pour moi, il n'y a pas de conflit d'intérêts.
Sur ces questions, Gilles Fontaine.
Le vrai problème, ça va même au-delà, je pense, c'est la capacité, les moyens financiers de ces grands groupes américains ou asiatiques aujourd'hui à capter justement cette matière grise. C'est quand même très regrettable qu'aujourd'hui en France ou en Europe, on ait très très peu de grands groupes privés capables justement de retenir ces talents, sans parler de l'administration. Enfin, on pourrait imaginer que nos services de renseignement, par exemple, aient aussi besoin, et d'ailleurs ils en ont énormément besoin de ces talents pour eux aussi rester dans le match de cette intelligence artificielle, parce que c'est un vrai match d'État. Je voulais apporter moi aussi deux petites interrogations
pour conclure.
Il y a deux problèmes. Donc le premier est déduit de ce que je viens de dire par rapport aux emplois, c'est-à-dire que beaucoup de ces talents vont vers les grands groupes et vont vers les GAFA notamment. Et puis je l'ai souligné aussi, les capacités, c'est-à-dire que pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, on considère qu'aujourd'hui c'est plus de 5% des capacités de production électrique mondiale, et ça va aller croissant, et qu'il va falloir trouver autre chose d'ici 2030 probablement, une autre source d'énergie, ou peut-être l'informatique quantique pour effectivement bousculer l'échiquier, faire en sorte qu'on puisse continuer à faire progresser cette intelligence artificielle.
On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à Emmanuel Paquette de L'Express et à Gilles Fontaine de Challenge. Merci à vous, Zoé Sfez. Je termine cette émission par une information. Le remaniement qui était attendu vient d'être annoncé il y a quelques minutes. 3 nouveaux ministres. D'abord, Sibé Ndiaye, qui était conseillère communication d'Emmanuel Macron, devient secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé comme porte-parole du gouvernement. Ensuite, Amélie de Montchalin, secrétaire d'État nommée aux affaires européennes. européenne et surprise enfin, Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie en charge du numérique.
Il devait sélectionner les candidates et finalement c'est lui qui a eu le poste.
Voilà, on peut aussi dire que d'une certaine manière, c'est Emmanuel Macron fait le choix de sa garde rapprochée puisque deux de ses proches collaborateurs à l'Élysée sont nommés ministres. Est-ce que le vivier était un peu épuisé? Est-ce qu'il y a des difficultés vers l'ouverture? Est-ce que c'est une volonté de centraliser? On verra les remarques et les commentaires de la presse autour de ces trois nominations. Donc, Sibeh Ndiaye, Amélie de Montchalin à l'Europe et Cédric O, donc chargé du numérique à la place de Mounir Majdoubi, qui devait venir d'ailleurs de cette émission et qui avait disparu au dernier moment puisqu'il allait démissionner quelques jours après. Merci à tous d'avoir été dans Soft Power ce soir. Il est 20h passé de 28 minutes. La semaine prochaine et dans les semaines à venir, nous continuerons à parler de ces questions. Dans un instant, vous retrouvez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier. Et j'ai encore le temps de vous signaler que l'invité, écoutez bien, l'invité exceptionnel des matins de France Culture demain sera justement Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, invité exclusif de Guillaume Herner pour parler philosophie et numérique. À ne pas rater donc ce lundi 1er avril. En attendant, bonne soirée à tous, bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.